vous invite à la prière. Notre Père, merci, effectivement, parce que tu te révèles à nous, parce que tu nous offres ta grâce et tu nous appelles à te suivre avec la joie, la force et la paix que tu nous donnes. Tu nous appelles à être à ton écoute et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous te prions pour que tu puisses nous parler à travers ta parole. Nous te prions également pour les enfants qui sont partis avec les moniteurs, qu'ils puissent développer cette relation avec toi, que nous puissions tous nous rassembler en toi, pour toi, et avec ton aide, avec ta grâce. Ouvre notre cœur et notre intelligence, que nous puissions mettre en pratique aussi ce que nous entendons de ta parole. Au nom de Jésus, amen. À quoi servent les murs ? Les murs ont plusieurs utilités. Je pense qu'il y a des spécialistes dans la salle. Dans notre temple et dans nos maisons, les murs délimitent les espaces. Ils soutiennent les structures de la construction. Ils facilitent l'installation des équipements électriques et assurent une isolation. Cependant, dans l'histoire de notre monde, dans notre histoire actuelle même, les murs ont également été utilisés pour séparer. Les murs sont utilisés, malheureusement, pour séparer. Et le premier exemple qui me vient en tête est celui du mur de Berlin. Nous l'avons appris dans les cours d'histoire au collège. Ce mur a été érigé en 1961 par l'Allemagne de l'Est pour la séparer de l'Allemagne de l'Ouest, et notamment pour éviter que les gens de l'Est fuient vers l'Ouest. En faisant quelques recherches, j'ai pu constater que beaucoup d'autres dirigeants ont utilisé des murs pour séparer des populations. En Irlande du Nord, dans les quartiers de Belfast, une série de murs a été construite à partir de 1970 pour séparer les protestants des catholiques, afin de mettre fin à leurs conflits, car ils s'entretuaient. Ces murs existent encore aujourd'hui et ils sont plutôt, restés pour des fins touristiques, mais probablement pas seulement. Et savez-vous comment ils ont appelé ces murs qui séparent protestants et catholiques, parce que les deux côtés étaient assez violents les uns envers les autres. Comment ils ont appelé ces murs qui les séparaient ? Peace lines, les lignes de la paix. On sépare deux populations par des murs, car ils sont incapables de vivre ensemble, et on dit que l'on a apporté la paix. Entre l'Inde et le Pakistan, un autre mur, dans la région de Cachemire, après leur conflit des années 1940, les deux pays ont érigé des barrières et des clôtures pour maintenir une certaine sécurité, car ils se disputent le territoire. Et aujourd'hui encore, le conflit n'est pas terminé, et l'ONU appelle cette barrière la ligne de contrôle, une ligne sensible. Entre les États-Unis et le Mexique, un mur gigantesque est en cours de construction depuis 2006. Sous la présidence de Trump, les travaux se sont accélérés, et le président Biden, qui lui a succédé, avait déclaré qu'il mettrait fin aux travaux. Mais ils ont tout de même continué. L'une des raisons évoquées, c'est que les contrats de plusieurs millions de dollars avaient déjà été signés avec les constructeurs. Et il semblerait que le président actuel, il dit qu'il ne peut pas arrêter ce qui a déjà commencé. On évalue à plusieurs dizaines de milliards de dollars le coût de ce mur qui sert à empêcher l'immigration depuis le Mexique. Enfin, dernier exemple parmi tant d'autres, des murs comme ceux-là, il y en a dans tous les continents. Dernier exemple parmi tant d'autres, Israël, a construit un mur de séparation en Cisjordanie. Du point de vue d'Israël, ce mur sert de barrière de sécurité pour se protéger des terroristes. Et du point de vue palestinien, ce mur est plutôt un problème. Les tensions entre les deux populations sont très actuelles et très vives. Je pense que c'est un conflit qui nous dépasse. Et nous sommes appelés, je pense, à prier pour toutes les victimes, ainsi que pour la fin de l'escalade de la violence. Alors si je parle de ce sujet et de tous les murs qui séparent des populations, c'est parce que le texte que nous allons lire ce matin parle de cela. Depuis quelques semaines, nous lisons la lettre de Paul aux Éphésiens et nous arrivons aujourd'hui au chapitre 2, des versets 11 à 22. C'est un texte qui parle de la démolition et de la chute d'un mur de séparation. Et avant de lire, voici un bref résumé de ce qui précède. Dans cette lettre, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de la ville d'Éphèse, qui se trouve dans l'actuelle Turquie. Dans le chapitre 1, il manifeste sa joie de savoir qu'ils connaissent Jésus. Il est heureux car le peuple de Dieu s'élargit. Ce sont notamment des non-juifs, des païens, qui viennent à Jésus. Il leur annonce que c'était le plan de Dieu depuis le début. Les chrétiens d'Éphèse ont été destinés par avance à être comblés en Jésus, dans le but de célébrer la gloire de Dieu. Et au début du chapitre 2, Paul leur rappelle comment était leur vie sans Jésus. Ils étaient non pas libres, mais esclaves de leurs propres désirs, de leurs propres pensées. Cependant, Jésus est venu les libérer. Il est venu leur donner une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie les destine à produire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'ils les accomplissent. Ce sont les mots de l'apôtre Paul. Nous lisons maintenant la suite du chapitre 2. Nous lisons les versets 11 à 22. On peut avoir le diapo. C'est bon ? Ah oui, parce que j'ai l'habitude que Sylvain me le met ici, pardon. Désolé. Chapitre 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier, l'un et l'autre, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès au Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Le discours de l'apôtre Paul commence par un impératif au verset 11. Souvenez-vous. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu étrange comme demande ? Dans la Bible, nous nous attendons à trouver des commandements du type « Aime ton prochain »,« Va aider les pauvres »,« Engage-toi dans l'Église », etc. Jésus et l'apôtre Paul demandent bien toutes ces choses que je viens d'énumérer, de mentionner. Ils demandent bien toutes ces choses dans le Nouveau Testament. Mais ici, il accorde une importance particulière au souvenir. Souvenez-vous. Et de quoi doivent-ils se souvenir ? De leur vie d'avant, avant qu'ils n'intègrent la famille de Dieu. Autrefois, les Éphésiens étaient identifiés comme païens, c'est-à-dire non-juifs, dans leur propre corps. Les hommes juifs avaient un signe physique de leur appartenance au peuple de Dieu. Ils étaient circoncis. Cela les distinguait des autres peuples qui n'étaient pas juifs et donc incirconcis. En tant que non-juifs, les Éphésiens étaient exclus de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ils ne bénéficiaient pas de la promesse, des promesses de Dieu. Et les termes employés à la fin du verset 12 sont très forts. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans ce monde, sans espérance. Et l'apôtre Paul leur dit, souvenez-vous bien, vous étiez perdus. Souvenez-vous d'où vous venez. Vous étiez perdus. Alors pourquoi leur demande-t-il cela ? C'est afin qu'ils puissent mieux comprendre de quoi Jésus les a sauvés. C'est pour que leur reconnaissance soit concrète. Dieu sait que nous avons tendance à oublier. Et je pense que c'est notre cas à tous, nous avons tous tendance à oublier. Hier, c'était le 11 novembre. Dans notre commune de Guillonville, comme partout en France, nous avons commémoré la fin de la Première Guerre mondiale. Et ce type de commémoration rend hommage aux personnes mortes pour la France et elle est également censée nous rappeler la dure réalité de la guerre afin de nous inciter à tirer des leçons du passé. Il semble que l'être humain a du mal à tirer des leçons du passé, car nous nous trouvons toujours dans un monde qui souffre à cause des conflits. C'est la raison pour laquelle le fait de se souvenir est d'autant plus important. Dans ma vie personnelle, Dieu a mis sur ma route plusieurs personnes qui m'ont permis d'avancer malgré les difficultés. J'ai reçu de l'aide, j'ai reçu de l'amitié, j'ai reçu du soutien, de bons conseils. Et lorsque je pense à ces personnes, je suis très reconnaissant de ce qu'elles m'ont apporté. Malgré cela, ce n'est pas toujours naturel de l'exprimer et de garder des liens avec ces personnes, de garder des liens dans le temps. L'être humain peut garder des rancunes et de l'amertume pendant des années. On peut être fâché avec quelqu'un, on peut avoir du ressenti envers quelqu'un pendant des années. Mais la reconnaissance, elle peut passer en quelques jours. La valeur de l'œuvre de Jésus est d'autant plus précieuse à nos yeux lorsque nous nous souvenons de quoi il nous a sauvés. Comment ce commandement peut résonner en nous ce matin ? Peut-être que vous n'avez pas vécu un avant et un après. Si vous avez par exemple grandi dans une famille chrétienne et que vous avez cheminé avec Dieu depuis votre enfance, il n'est pas évident de dater un moment dans votre vie où vous avez démarré une relation avec Jésus. Peut-être que vous n'avez pas encore de relation avec Jésus, ou peut-être que vous n'avez pas un souvenir si négatif de votre vie d'avant. Dans ces cas, comment pouvons-nous nous souvenir ? Je pense que dans la vie, nous passons tous par des étapes. Il y a parfois de grands changements et même des crises dans notre vie. En tout cas, nous passons par différentes étapes. Et dans ces grandes étapes de notre vie, il peut y avoir des moments où Dieu a agi de manière particulière. Je pense que l'impératif de l'apôtre Paul s'étend à tous ces moments de notre vie où Dieu nous a accordé une grâce particulière, où nous avons vu et senti la main de Dieu, son action. Nous sommes invités à nous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous hier et aujourd'hui. Et si nous n'avons pas encore identifié ces moments, Paul nous invite à prendre le temps de le faire. Quels sont les moments où Dieu nous a conduits de manière particulière. Les Éphésiens sont d'abord invités à se souvenir de leur vie d'avant, sans Dieu. Deuxièmement, ils sont invités à contempler l'œuvre de Jésus, à partir du verset 13. C'est mon deuxième point. « Mais maintenant, vous êtes proches. » Relisons le verset 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » L'apôtre fait référence à la mort de Jésus sur la croix. Paul explique ensuite que la mort de Jésus a démoli des murs. Ce mur, c'était la haine qui séparait les Juifs des païens. C'était aussi la haine qui séparait l'humanité, donc nous, de Dieu. Les Juifs et les païens étaient séparés, car dans un premier temps, seuls les Juifs étaient bénéficiaires des promesses de Dieu. Cette séparation a donné lieu à des tensions et des conflits entre les Juifs et les païens. Par ailleurs, l'humanité était séparée de Dieu à cause du péché. Le péché, c'est ce que nous commettons à chaque fois que nous nous écartons de Dieu et sa volonté. Jésus a détruit ce mur qui nous séparait de Dieu, car en mourant sur la croix, Jésus a payé pour nos fautes. L'œuvre de Jésus, donc, nous rapproche de Dieu et il nous rapproche de tous les enfants de Dieu entre eux, qu'ils soient juifs ou non juifs. En effet, le salut est offert à toute l'humanité. Lorsque Dieu a appelé Abraham pour former un peuple à partir de la descendance d'Abraham, il lui a dit dès le début, en Genèse chapitre 12, que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Dès la promesse, avant même que le peuple hébreu existe, avant même que Dieu forme son peuple, il avait annoncé dès le début que le projet final serait que toutes les nations de la terre seront bénies. Et le projet de bénir toutes les nations s'est réalisé. Alors, quelle est la spécificité des Juifs ? Eh bien, Dieu a formé et choisi ce peuple pour qu'ils soient les premiers bénéficiaires, mais pas les seuls. Parce que tout au long de l'histoire d'Israël, eh bien, des étrangers ont été inclus dans ce peuple. Ils ont été les premiers bénéficiaires et ils sont les premiers témoins du Christ, témoins pour le monde. C'est ce que Jésus a dit aux apôtres pendant qu'il les quitte, en acte 1, verset 8. « Vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Depuis la venue de Jésus, le peuple juif n'est donc plus un peuple qui doit se replier sur lui-même pour se protéger de l'idolâtrie païenne. Il devient un peuple qui doit s'ouvrir aux autres pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Et voici comment Paul résume cette œuvre au verset 16. Il a voulu les réconcilier, l'un et l'autre, juifs et non-juifs donc, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. En résumé, puisque Jésus a séparé le mur qui séparait les juifs et les non-juifs, et le mur qui séparait l'humanité de Dieu, il n'y a plus qu'un seul peuple uni avec Dieu. C'est ce que nous appelons, ce que la Bible appelle l'Église. Dans la Bible, l'Église, c'est le peuple juif qui met sa foi en son Messie Jésus, avec des extensions païennes que Dieu a ajoutées et qu'il ajoute encore. En disant tout cela, où veut-il en venir ? Où est-ce que l'apôtre Paul veut-il en venir ? C'est mon troisième et dernier point. Ainsi donc, vous êtes concitoyens. C'est très intéressant car à l'époque où Paul écrit, Israël n'est pas une entité géopolitique indépendante. Israël est occupé par les Romains. Mais au verset 19, l'apôtre Paul parle des Juifs et des païens, chrétiens, comme étant des concitoyens. Ainsi donc, verset 19, vous n'êtes plus étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. De quelle cité sont-ils concitoyens? S'ils sont concitoyens, il y a bien une cité de laquelle ils sont concitoyens. Eh bien, ils le sont du royaume de Dieu manifesté sur terre. Ce royaume n'est pas délimité par des frontières terrestres. Il est présent partout où l'Église sert le Christ fidèlement. Le temple de Jérusalem symbolisait là où Dieu était présent. Mais Dieu est réellement présent là où son peuple se réunit en son nom. Si bien que l'apôtre Paul parle des chrétiens comme étant des pierres vivantes posées sur l'édifice du temple. Il le dit au verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » La pierre angulaire était la pierre principale d'un édifice. Donc le nouveau temple de Dieu a pour pierre angulaire Jésus. Il a pour fondement l'enseignement des apôtres et chaque disciple de Jésus est comme une pierre posée sur l'édifice de ce temple. Cette autre image montre l'unité dans l'Église entre juifs et païens, entre nous et Dieu. En conclusion, que faire de ces infos? C'est intéressant de savoir que nous sommes concitoyens, que nous formons le temple de Dieu. Mais quelles sont les conséquences dans notre vie de tous les jours? Ce sont les deux derniers versets qui nous aident, versets 21 et 22. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. En tant que concitoyens du royaume de Dieu, en tant que pierre de l'édifice du temple, nous sommes appelés à être saints. Puisque le temple est saint et qu'il accueille l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, soyons saints. En fait, l'apôtre Paul ne fait que redire ce qu'il vient de dire au début du chapitre 2 et que nous avons lu la semaine dernière. D'abord, il avait parlé de notre vie d'avant, sans Dieu. Nous étions esclaves de nos désirs. Ensuite, l'œuvre de Jésus nous libère. Il nous libère de nos propres désirs. Enfin, une fois libérés de nos désirs, de nos pensées, nous pouvons accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Ici, il dit la même chose. Autrefois, souvenons-nous, nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Mais par la croix, nous sommes devenus proches de Dieu. Ainsi donc, soyons saints, car nous formons le temple de Dieu. Nous ne devons plus vivre comme s'il y avait des murs. Ne vivons plus comme s'il y avait des murs. Jésus a détruit tous les murs. Il a détruit toutes les frontières. Et nous, êtres humains, nous avons tendance à ériger des barrières. Alors que Jésus a détruit des murs, nous les construisons. Le temple de Dieu n'est pas un temple fait de murs qu'il faudrait reconstruire pour hâter le retour du Christ. Le temple de Dieu, c'est l'Église, non pas le bâtiment, mais la communauté. La cité de Dieu, ce n'est pas une terre avec des frontières. La cité de Dieu, c'est son royaume, présent partout où l'Église proclame fidèlement l'Évangile. Et ce royaume est déjà présent et il se prolongera de manière ultime dans l'éternité. Enfin, soyons attentifs à ne pas ériger d'autres types de murs et s'il y en a, détruisons-les. Nous ne sommes pas à l'abri du nationalisme, des animosités personnelles engendrées par l'orgueil, les préjugés, la jalousie, l'impatience ou le refus de pardonner. Œuvrons plutôt dans le sens de l'unité entre nous et entre les différentes dénominations d'Église du Christ, car c'est lui qui nous réunit. C'est en agissant ainsi que nous serons des témoins fidèles de l'évangile de Jésus-Christ, lui qui a détruit tous les murs, les frontières et les barrières. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tous ces symboles qui ont été établis auparavant dans l'Ancien Testament, le temple, une terre sainte, eh bien ces symboles se sont accomplis en Jésus-Christ, qui est la présence même de Dieu par son Esprit en nous, et en ton Église, qui est le lieu où tu es présent, le lieu où tu te révèles parmi tant d'autres. Merci parce que tu te révèles à nous à travers ta parole, et lorsque nous nous réunissons, tu es là. Aide-nous à ne pas ériger des barrières entre nous, quelle que soit la raison. Aide-nous plutôt à œuvrer pour l'unité. D'abord là où nous sommes, avec ceux que nous côtoyons dans l'Église, et entre tous tes enfants présents partout dans ce pays et dans ce monde. Toi qui as détruit toutes les barrières, toi qui nous as rapprochés les uns des autres et de toi, nous voulons vivre cela. Aide-nous à le vivre par ta grâce, en nous donnant la patience, la sagesse, le souhait de nous réconcilier. Aide-nous à nous aimer pour vivre cela. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.